Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez ?
Oui.
En tout cas, bienvenue à chacun dans ce moment de culte, dans ce moment où nous écoutons aussi la parole de Dieu. Après lui avoir adressé nos paroles par ses chants, par nos prières. Et j'aimerais commencer par parler d'Apple. Alors, j'aimerais pas faire de publicité. Mais vous savez, pour chaque automne, Apple annonce une mise à jour pour ses smartphones, avec des nouveautés, avec des fonctionnalités améliorées. Et pour les geeks, c'est toujours un événement attendu. À quoi va ressembler la nouvelle mise à jour ? Et d'une manière générale, la nouveauté nous attire, car elle devrait être synonyme d'amélioration. Le nouveau est censé être mieux que l'ancien. Et dans le langage biblique, il est bien question d'une ancienne alliance et d'une nouvelle alliance. Et le mot « alliance », lorsqu'on en parle dans la Bible, fait référence à l'accord qui existe entre Dieu et son peuple. Une sorte de pacte, une sorte de contrat entre Dieu et son peuple. Les deux parties s'engagent l'une envers l'autre. Dieu s'engage à bénir son peuple, bien que ce dernier ne le mérite pas, parce qu'il est défaillant, parce que bien souvent il est infidèle. Mais Dieu s'engage à bénir son peuple, et le peuple s'engage à obéir à Dieu, à lui rester fidèle. Donc on a cette alliance, ce pacte, ce contrat entre Dieu et son peuple. Et nous pouvons alors nous demander pourquoi il fallait une nouvelle alliance. Si une alliance existait déjà, pourquoi il fallait une nouvelle alliance ? Et en quoi cette nouvelle alliance est meilleure que l'ancienne ? Et maintenant, vous voyez un peu le lien avec Apple. En quoi le nouveau est mieux que l'ancien ? Et cet après-midi, nous nous intéressons au livre de Jérémie, qui est le seul endroit de l'Ancien Testament où l'expression « nouvelle alliance » est employée. Et nous l'avons lu dans ce passage, dans Jérémie 31. Jérémie, pour parler un petit peu de lui, est un prophète de l'Éternel qui a vécu durant la toute dernière période du royaume de Juda. Et pour rappel, simplement historique, en 722, les Assyriens sont arrivés et ont détruit le royaume d'Israël, le royaume qui est au nord. Et ils ont emmené ces Israélites en exil. En 701, nous avons parlé de cet événement il n'y a pas longtemps, en 701, ces Assyriens étaient aux portes de Jérusalem, prêts à détruire le royaume de Juda, donc le royaume du sud. Mais miraculeusement, Dieu a délivré son peuple à ce moment-là. Donc 701. Et 100 ans plus tard, la grande puissance qui gagne du terrain à ce moment-là, ce ne sont pas les Assyriens, mais les Babyloniens. Et cette fois-ci, à cause de tous les péchés du peuple de Juda, Dieu annonce par son prophète Jérémie que c'est la fin. Comme Israël, au nord, le royaume de Juda est voué à disparaître. Les Judéens partiront en exil. La ville de Jérusalem sera détruite. Le temple de Jérusalem sera détruit. Et Jérémie, en tant que prophète, est chargé de ce message. Il doit l'annoncer à ses contemporains. Il doit leur dire, c'est la fin. Dieu a prévu que le royaume allait se terminer, que vous allez partir en exil. Et vous imaginez bien qu'en annonçant un tel message, Jérémie n'était pas souvent écouté. Qui voudrait écouter que c'est la fin ? Que la ville où nous habitons va s'effondrer ? Que le temple vers lequel nous allons pour adorer Dieu va être détruit ? Qui veut entendre cela ? Eh bien, Jérémie était un prophète qui avait du mal à vivre sa vocation, qui souffrait parce qu'il n'était pas entendu, il n'était pas écouté. Et même plus d'une fois, on a cherché à le faire taire. Comprenez, on a cherché à le faire mourir. Mais Jérémie ne change pas son message. Dieu a décidé de mettre fin au royaume de Juda à cause de tout le mal que le peuple a commis, à cause de l'abandon de ce peuple vis-à-vis de Dieu, parce que ce peuple s'est tourné vers des idoles. Et c'est dans ce contexte sombre que Jérémie adresse quand même des paroles de consolation pour celles et ceux qui restent attachés à Dieu. Il y a des paroles de consolation. Et c'est l'objet des chapitres 30 à 33 du livre de Jérémie. Autrement dit, au-delà du jugement qui a été annoncé et qui aura bien lieu, il ne faut pas se faire d'illusions, ce jugement aura bien lieu, au-delà de cela, il y a une espérance. Et vous savez que c'est le thème de cette année. Il y a une espérance. Après 70 années d'exil, Dieu compte rassembler. Dieu compte faire revenir les exilés en Israël. Voilà l'espérance. Mais ça va encore plus loin. Autrefois, Dieu avait conclu une alliance avec le peuple d'Israël. Au moment où ce peuple était sorti d'Égypte, avec Moïse. Mais comme vous le savez sans doute, très vite, ce dernier a rompu cette alliance, a rompu le contrat qu'il avait avec Dieu. Et maintenant, avec ces paroles que nous avons dans Jérémie 31, malgré l'échec du peuple de Dieu, Dieu promet, dans sa grâce, une nouvelle alliance, dans les jours à venir. Et c'est quand même incroyable quand on y pense. Le peuple a complètement gâché cette première alliance avec Dieu, et Dieu prévoit quand même une nouvelle alliance. Quelle grâce! Et si nous faisons un saut dans le Nouveau Testament, nous voyons bien cette nouvelle alliance, nous voyons bien que cette nouvelle alliance est celle que Dieu a conclue avec son nouveau peuple, qui est l'Église. En lisant ce texte de Jérémie, nous discernons bien l'intention de Dieu. Pour résumer un peu ce message, par la nouvelle alliance, Dieu nous montre sa grâce et nous montre aussi sa volonté d'être en relation avec nous. Par la nouvelle alliance que Dieu va établir, que Dieu en fait a établie, si on se place de notre côté, Dieu nous montre sa grâce et sa volonté d'être en relation avec nous. S'il a prévu une deuxième alliance, c'est qu'il veut vraiment être avec son peuple. Il veut vraiment cette relation. Alors regardons en quoi cette alliance que Dieu a voulu et que Dieu a conclue avec nous est si extraordinaire. Et je vous propose de regarder de plus près ce texte de Jérémie 31. Premièrement, la première caractéristique de cette nouvelle alliance, c'est que Dieu écrit sa loi dans notre cœur. Avec tout ce que Jérémie leur a dit, les Judéens savent maintenant que Dieu va mettre un terme à tout ce qu'ils connaissent. Leurs péchés, les injustices qu'ils ont commises ont souillé tout ce qu'il y avait de bon, tout ce qui était au départ une bénédiction. La terre promise, un roi choisi par Dieu, la ville de Jérusalem, le temple, tout ça va disparaître. Et vous le savez bien, l'infidélité du peuple d'Israël ne date pas seulement du temps de Jérémie. Nous l'avons déjà dit, peu de temps après leur sortie d'Égypte, déjà dès le début de son histoire, le peuple a fait preuve d'infidélité à l'égard de Dieu. Et l'histoire d'Israël, tout au long de cette histoire-là, cette histoire nous montre un peuple dont le principal problème est le péché. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais c'est le problème de tous les hommes. Sauf que la Bible se focalise sur l'histoire de ce peuple. Et ce peuple qui pourtant a été choisi par Dieu, avec qui Dieu a fait alliance, eh bien, connaissait le même problème que tous les autres hommes, le péché. Donc, l'alliance qui a été conclue sur le mont Sinaï au temps de Moïse est désormais inefficace. Puisque, regardez le verset 22, puisque le peuple l'a violée. Puisque la première alliance a été brisée, une nouvelle alliance doit être mise en place. Et cette nouvelle alliance est caractérisé comme la première par l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui prend l'initiative. Non seulement cette alliance, cette nouvelle alliance est une idée de Dieu, mais c'est aussi lui qui va agir dans le cœur des membres de son peuple. Et j'aimerais relire avec vous le verset 33. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël. Après ces jours-là, déclare l'Éternel, je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. » Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et tout cela est dit au futur. L'expression « après ces jours-là » est une formule pour désigner des temps que Jérémie et ses contemporains ne connaissent pas. Après ces jours-là, longtemps après. Et bien sûr, le Nouveau Testament révèle que ces jours correspondent au temps de la fin, qui ont été inaugurées par la venue de Christ. C'est à ce moment-là, au moment de la venue de Christ, que Dieu commence à réaliser sa promesse. Et on peut se demander, qu'est-ce que cette loi que Dieu met dans le cœur des membres de son peuple? Qu'est-ce que cette loi? Autrefois, la loi, et plus précisément les 10 commandements, étaient gravés par Dieu sur des tablettes de pierre. C'était les tablettes de l'acte de l'Alliance. La loi était gravée sur des pierres, était écrite sur des pierres. Et dans le texte de Jérémie, vous remarquez bien que l'Éternel met sa loi non pas sur des pierres, mais à l'intérieur des hommes et des femmes qui lui appartiennent. La loi n'est plus quelque chose d'extérieur à l'être humain, elle est désormais intériorisée. Elle est à l'intérieur des membres du peuple de Dieu. Si Dieu met sa loi à l'intérieur de l'être humain, cela signifie que ce dernier ne pourra pas s'en détacher, puisque c'est inscrit dans son cœur. Ce dernier ne pourra pas s'en détacher, ne pourra pas oublier cette loi. Et grâce à cette action de Dieu, le cœur du pécheur va changer d'orientation. Au lieu de rejeter la loi de Dieu, il va s'y attacher. Et sous la nouvelle alliance, le cœur va suivre la loi qui est placée en lui. Il va y adhérer. Nous pouvons juste prendre quelques secondes pour nous rendre compte que c'est ce que Dieu a fait en nous si nous lui appartenons. Il a écrit sa loi dans notre cœur. De telle sorte qu'on ait envie de suivre cette loi. J'aimerais appuyer encore un petit peu plus cette idée, cette image de l'écriture ou de la gravure qui est tellement forte et qui montre quelle est l'intention de Dieu. Pourquoi écrire la loi sur le cœur ou graver cette loi dans le cœur? Eh bien, tout simplement pour laisser une trace durable. Et par contraste, ce qui est intéressant, c'est que dans le même livre, lorsqu'on va au chapitre 17, le prophète disait déjà « Le péché de Juda est écrit, vous entendez bien l'expression, le péché de Juda est écrit avec un burin de fer. Il est gravé sur la tablette de leur cœur. » Par contraste, nous avons cette réalité du peuple de Juda, que le péché est gravé sur la tablette de son cœur. Et ce n'est pas étonnant que plusieurs chapitres plus tard, pour remédier, pour changer ce cœur que Jérémie qualifie d'incurable, Dieu promet d'inscrire sa loi sur le cœur de tous les membres de son peuple. Parce que ce cœur a besoin d'être changé. Autrement, il est impossible au peuple d'être fidèle à Dieu si son cœur, sur lequel est inscrit le péché, continue de rester ainsi. Mais Dieu promet, et c'est là l'espérance, Dieu promet d'écrire sa loi, de remplacer ce péché qui est écrit sur le cœur, de mettre sa loi sur ce cœur. Et dans les versets qui suivent notre passage ici, des versets 35 à 37, eh bien, ces versets-là introduisent l'idée que la nouvelle alliance sera une alliance éternelle. Que dans ce contexte, nous saisissons encore mieux que l'Éternel écrira sa loi sur le cœur de son peuple d'une manière permanente. Si cette alliance est une alliance éternelle, eh bien, ce que Dieu fait dans le cœur est permanent. La loi écrite dans le cœur ou gravée sur le cœur est donc une image. Comprenez bien qu'il s'agit d'une image pour parler de la transformation que Dieu opère en nous. Dans notre être intérieur, au plus profond de nous-mêmes. Et cette transformation est opérée en nous de telle sorte que nous puissions nous tourner vers lui. Et on a besoin de cette transformation. En théologie, nous parlons de régénération. C'est ce qui se passe, c'est ce qui nous est décrit ici. Et c'est de cette manière qu'un être humain qui est naturellement hostile à Dieu se convertit, parce que Dieu écrit la loi dans son cœur. Ce que l'Éternel a promis à l'époque de Jérémie, il l'a réalisé, en se constituant un nouveau peuple, autour de la personne de Jésus. Dieu n'a pas évincé Israël de sa nouvelle alliance, mais il a fait le tri au sein de son peuple. Seuls les Israélites qui ont cru en Jésus, le Fils de Dieu, le Seigneur, ont rejoint ce nouveau peuple. Un peuple qui adhère à la loi de Dieu, parce que chaque membre a été transformé intérieurement. Sans cette transformation du cœur, nous-mêmes, nous resterions en dehors du peuple de Dieu. Et quelle grâce que par son esprit, Dieu nous ait convaincus. Parce que l'œuvre qui est décrite ici est celle de l'esprit. Quelle grâce que par son esprit, Dieu nous ait convaincus. Quelle grâce qu'il ait écrit sa loi dans notre cœur. Et tout chrétien, toute chrétienne, savent quel changement Dieu a opéré en eux. Cela ne veut pas dire que nous ne péchons plus, même si la loi est gravée sur notre cœur. Notre quotidien nous démontre constamment que nous continuons à pécher. Mais depuis le jour où nous avons placé notre foi en Jésus, notre façon de voir la loi de Dieu, de voir ses commandements a changé. Avant, nous ne voulions pas y obéir. Aimer Dieu de tout son cœur, aimer notre prochain comme nous-mêmes, ça ne nous intéressait pas. Mais Dieu a écrit sa loi dans notre cœur, de telle sorte que désormais, nous disons oui à la loi de Dieu. Ça, c'est la transformation qu'il a opérée. La conversion, c'est une véritable adhésion de notre part. Et elle ne se produit que si Dieu agit en nous, au plus profond de notre être. Sans cela, il n'y a pas de conversion. Et je trouve que cela nous encourage quand nous luttons avec nos mauvaises habitudes, quand nous luttons avec notre propre péché. Ce n'est plus le péché qui est écrit dans notre cœur, mais la loi de Dieu, et nous devons nous souvenir de cela. Dieu nous a donné la capacité d'aimer ce qu'il aime et de faire le bien qu'il aime. Il s'agit pour nous d'être toujours cohérents avec cette nouvelle orientation dans notre cœur. Bien des tentations nous guettent, celle de pécher contre Dieu, celle de céder à une pulsion sexuelle en dehors du cadre du mariage, celle de vouloir dire des paroles blessantes à l'autre. Bien des tentations nous guettent. Or, parce que Dieu a écrit sa loi dans notre cœur, nous savons que toutes ces choses sont mauvaises. C'est pourquoi lorsque nous échouons, lorsque malheureusement nous avons cédé à la tentation, nous revenons quand même à Dieu pour lui demander pardon. Parce que notre cœur est radicalement orienté vers lui, même si nous continuons à pécher. Quelque chose s'est passé en nous. Le diable veut certainement que nous croyions que notre cœur n'a pas vraiment changé et que nous ne pouvons pas changer. Mais Dieu dit le contraire lorsqu'il promet « Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux ». Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Vous êtes toujours avec moi ? Dans la nouvelle alliance, tous les membres du peuple de Dieu ont la loi gravée sur leur cœur. Et donc, nous sommes concernés par cette parole. C'est ce que Dieu a promis et c'est ce qu'il a réalisé dans notre vie. Voyons à présent une autre caractéristique qui nous concerne aussi. Deuxièmement, deuxième caractéristique, tous connaissent Dieu dans le peuple de Dieu. Verset 34, « Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. » L'affirmation « Tous me connaîtront » souligne le fait que le nouveau peuple de Dieu sera uniquement composé de personnes qui connaissent Dieu. Cela signifie que ce n'était pas le cas pour Israël de l'ancienne alliance. Tant de fois, Dieu a reproché à son peuple de ne pas le connaître vraiment. Parce que si c'était le cas, ce peuple ne ferait pas ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et il fallait constamment l'enseigner à ce sujet, lui dire « il faut que tu connaisses ton Dieu ». Ça, c'était la réalité sous l'ancienne alliance, que tous ne connaissaient pas Dieu. Mais les choses changent avec la nouvelle alliance. Désormais, aucun n'aura besoin d'être enseigné ou d'enseigner son frère pour lui dire « il faut que tu te convertisses ». Parmi les chrétiens, on n'a pas besoin de se dire cela. Entre chrétiens, nous n'avons pas besoin d'encourager l'autre en disant « il faut que tu te convertisses ». C'est déjà fait. Cette connaissance de Dieu doit être acquise d'une manière individuelle. Nous ne pouvons pas nous convertir à la place des autres. Et dans le langage biblique, la connaissance de quelqu'un ne se limite pas à l'acquisition d'informations à son sujet. Elle a un aspect relationnel. L'être humain peut affirmer connaître Dieu s'il est en relation avec lui. Être en relation avec lui, connaître Dieu, cela signifie que l'on connaît son caractère, que l'on connaît son œuvre, ce qu'il a fait, son salut, que l'on connaît ses exigences, nous savons ce qu'il demande. Ainsi, comme le relève un commentateur, la connaissance de l'Éternel est liée à l'obéissance à ses commandements. Celui ou celle qui connaît Dieu cesse de faire le mal. Pour le dire encore autrement, lorsque nous obéissons aux commandements de Dieu, nous démontrons par là que nous connaissons Dieu. Et notez cette précision au verset 34. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Par cette expression, nul ne manque à l'appel. Il n'y aura plus dans le nouveau peuple de personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. À la fois, chacun connaîtra Dieu et tous le connaîtront. Et j'aimerais encore citer ce que dit un commentateur concernant cette dimension collective de la connaissance de Dieu. Souvent, on se focalise sur le fait « moi, je connais Dieu », mais nous connaissons tous Dieu. Le peuple de Dieu connaît Dieu. Et donc, il dit ceci, « la communauté entière du peuple de Dieu démontrera enfin dans sa vie et dans sa pratique collective qu'elle connaît et qu'elle reflète la personne du Dieu qu'elle adore. » Il y a quelque chose de radicalement différent avec le peuple d'Israël de l'Ancienne Alliance. Dans le langage que nous employons parfois dans les églises, nous parlons des non-croyants comme de ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et il me semble que cela rejoint l'idée de notre texte, que le peuple de Dieu, sous la Nouvelle Alliance, est un peuple composé de personnes qui connaissent le Seigneur, qui sont en relation avec lui. Et donc, les personnes qui ne font pas partie de ce peuple ne connaissent pas le Seigneur. Jérémie écrit ailleurs au chapitre 24, verset 7, « Je leur donnerai un cœur. » Encore cette histoire de cœur. « Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. » Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Encore une fois, il faut que Dieu agisse pour que nous puissions le connaître. Où est-ce que tu te situes? Entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Peux-tu dire que tu as une relation avec Dieu et donc que tu le connais? Peux-tu affirmer que tu obéis au commandement de Dieu et donc que tu le connais? Pour nous qui vivons après la venue de Jésus, Dieu nous a donné une seule voie pour le connaître. Un seul chemin. Dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus affirme « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Dieu nous a donné une seule voie pour le connaître. Et pourquoi il faut absolument passer par Jésus? Pourquoi ne pouvons-nous pas connaître Dieu directement? Eh bien parce que nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu et être en relation avec lui en étant chargé de nos péchés, en étant chargé de notre culpabilité. Parce que lui, le Dieu saint, ne peut pas l'admettre. Mais Jésus est la solution à notre problème. En se chargeant de nos péchés, et tout à l'heure nous avons chanté au sujet de la croix, en se chargeant de nos péchés, en payant notre dette, il ouvre la voie à la réconciliation. Et de cette manière, nous pouvons connaître Dieu. De plus, Il faut ajouter quand même cela, et ce n'est pas de moindre importance. De plus, Jésus est Dieu. Autrement dit, si vous suivez un peu le raisonnement, Jésus est Dieu. Passer à côté de Jésus, ne pas prendre ce chemin, c'est à coup sûr s'éloigner de Dieu. Si nous ne passons pas par Jésus, à coup sûr nous nous éloignons de Dieu, puisqu'il est Dieu. Autrement dit, pour faire partie du peuple de Dieu, il faut croire en Jésus. Et j'aimerais justement insister sur la troisième caractéristique de la nouvelle alliance qui concerne le pardon des péchés. Troisième caractéristique, Dieu ne se souvient plus de notre péché. Je lis la fin du verset 34. « En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Remarquez le lien entre cette idée et le reste du verset. Tous les membres du peuple connaîtront Dieu, car ils auront été préalablement pardonnés. Ce n'est possible que s'ils ont été pardonnés. C'est ce pardon qui nous permet d'être en relation avec Dieu. C'est ce pardon qui rend possible la nouvelle alliance, qui est un élément pour que la nouvelle alliance puisse être possible entre Dieu et son peuple. L'homme doit être réconcilié avec Dieu, et c'est en cela qu'il prête en même temps allégeance à celui qui lui accorde le pardon. Et à la lumière du Nouveau Testament, nous savons que le sacrifice qui a permis le pardon total est celui de Christ. Et lors de l'institution de la scène, et tout à l'heure nous prendrons également la Sainte Cène, mais lors de l'institution de la scène, Jésus a déclaré à propos du sens de la coupe, « Buvez-en tous, ceci est mon sang par lequel est scellée l'Alliance. » Et nous parlons de la Nouvelle Alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Donc vous voyez le lien entre la Nouvelle Alliance et le pardon des péchés. Et voici un autre verset que je cite aussi quand nous prenons la Sainte Cène, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 22. « En fait, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang, et il n'y a pas de pardon des péchés sans que du sang soit versé. » Bien sûr, dans notre passage, Jérémie n'aborde pas cet aspect du sacrifice. Mais lorsqu'il parle de pardon, il est clair. Il est clair pour un Israélite de l'époque que le pardon est accordé si du sang, et en l'occurrence du sang animal, a été versé. Lorsque nous parlons de pardon, ce qui est sous-entendu derrière, ce sont les sacrifices. Un animal meurt pour que le pécheur puisse continuer à vivre. C'est la disposition que Dieu a prévue pour que les êtres humains ne meurent pas immédiatement, pour qu'ils aient la possibilité de revenir à Dieu, pour qu'ils aient la possibilité de regretter le mal qu'ils commettent. Et ce qui est différent avec la nouvelle alliance, c'est que ce n'est pas un animal ou plusieurs sacrifices qui se renouvellent, mais c'est Christ qui meurt une fois pour toutes, pour tous nos péchés. Ça, c'est ce qui est différent dans la nouvelle alliance. Et c'est pourquoi Dieu peut dire « Je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Ce seul sacrifice suffit pour les péchés de tout le peuple de Dieu. Et si je reviens à l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, l'auteur développe d'un côté le thème que les sacrifices de l'Ancienne Alliance ont été finalement inefficaces, puisqu'il fallait constamment les renouveler. Et de l'autre côté, il défend l'idée que seul le sacrifice de Christ est efficace et purifie vraiment du péché. Et ce don est d'ailleurs valable pour l'éternité. Et j'aimerais juste relire ce passage dans Hébreux chapitre 10, les versets 14 à 18. Et vous allez voir que l'auteur recite le texte de Jérémie. Voici ce qu'il écrit. « Par une offrande unique, en effet, il, Dieu, a rendu parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. » Il rend parfait pour toujours ceux qu'il purifie du péché. C'est là ce que le Saint-Esprit nous confirme de son côté, car il dit d'abord « Mais voici quelle alliance je vais conclure avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je placerai mes lois dans leur cœur et je les graverai dans leurs pensées. » Puis il ajoute « Je ne tiendrai plus compte ni de leurs péchés, ni de leurs fautes. » Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux termine en disant « Or, lorsque les péchés ont été pardonnés, il n'est plus nécessaire de présenter une offrande pour les ôter. » Le sacrifice de Jésus suffit. Et puisque le sacrifice de Jésus suffit, Dieu peut constamment nous pardonner chaque fois que nous revenons à lui, à chaque fois que nous avons cédé à la tentation. Et de ce pardon qui nous vient de Dieu, nous en avons besoin chaque jour de notre vie. Il nous reste juste à élucider la fin de ce verset. Que signifie l'expression « je ne me souviendrai plus de leurs péchés » Est-ce que Dieu oublierait nos péchés? Comme s'il avait perdu la mémoire? Dieu n'oublie pas que nous avons péché. Dieu connaît notre passé. Mais cette expression, vous voyez, est tellement forte, et suffisamment forte pour nous faire comprendre que Dieu ne considérera plus le péché comme une barrière entre lui et son peuple. Puisque le péché a été pardonné. La version de la Bible du Semeur propose de traduire « Je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. » Et c'est bien de cela dont nous avons besoin, mes amis, que Dieu ne tienne plus compte de notre péché. Et c'est tellement libérateur. Ça nous permet d'avancer jour après jour, de savoir qui peut nous pardonner le moindre de nos péchés. Et même les péchés les plus graves que nous pouvons commettre. Et la conséquence, c'est que, pardonnés de nos péchés, nous ne pouvons plus vivre comme avant. J'ai eu l'occasion de le témoigner au groupe Samuel, il y a 2 semaines, en ce qui me concerne. Avant ma conversion, je croyais que Dieu avait un compteur pour compter tous mes péchés. Et des péchés, j'en avais beaucoup. Enfant, je vivais sous le poids d'une culpabilité écrasante parce que pas un seul jour ne passait sans que je ne pêche. Donc le compteur de Dieu devait s'élever je ne sais pas à combien. J'avais vraiment, vraiment une mauvaise estime de moi-même en pensant à ça. Dieu compte mes péchés. Je suis tellement mauvais. Mais un jour, je ne sais plus quand, Dieu m'a fait comprendre le message de l'Évangile. J'ai alors compris que Jésus était venu précisément pour régler le problème de ma culpabilité et de mon péché. Et pourquoi a-t-il fait cela? Parce qu'il m'aime. Parce qu'il veut être en relation avec moi. Et depuis ce jour, depuis que Dieu m'a fait comprendre l'Évangile, bien que je pêche encore, je sais que si je demande sincèrement pardon à Dieu, il m'accordera généreusement son pardon. Parce que Jésus est déjà mort pour mes péchés, qu'il est ressuscité et qu'il intercède pour moi. Je le sais maintenant et c'est libérateur. Je n'ai plus à me sentir coupable outre mesure, mais je peux demander pardon à Dieu. Et je sais que je serai pardonné. Et cela me soulage, je suis léger. Et je peux continuer à marcher dans ses voies. Sous la nouvelle alliance, Dieu a prévu que nous puissions expérimenter ce pardon renouvelé afin de rester en relation avec lui. Et tout cela grâce à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Alors, je termine en disant que Apple ou d'autres géants de la technologie peuvent continuer à sortir des mises à jour. Mais ces événements sont de moindre importance par rapport à la nouvelle alliance que Dieu a conclue avec son peuple. Un peuple que Dieu continue de rassembler. Apple et compagnie espèrent peut-être que nous finissions tous par posséder leurs produits, mais c'est loin d'être le cas. Par contre, sous la nouvelle alliance, Dieu écrit sa loi dans le cœur de chacun des membres de son peuple. et notre cœur transformé et tourné résolument vers Dieu et vers sa volonté. Et cela d'une manière permanente. Deuxièmement, sous la Nouvelle Alliance, tous connaissent Dieu dans le peuple de Dieu. Tous connaissent Dieu, petits et grands, tous ceux qui placent leur confiance en Jésus, le seul chemin qui mène au Père. Et enfin, sous la Nouvelle Alliance, Dieu ne se souvient plus de notre péché. Il n'en tient plus compte. Jésus a payé pour nos fautes, afin que Dieu puisse constamment nous pardonner lorsque nous revenons à lui. Rappelons-le, en tout cela, Dieu nous témoigne de sa grâce lorsqu'il nous intègre à son peuple qui lui appartient. Si tu fais partie du peuple de Dieu, c'est que Dieu veut vraiment que tu y sois. Et pourtant, nous ne le méritons pas. Mais si tu fais partie du peuple de Dieu, c'est que Dieu veut vraiment que tu y sois. Il t'a choisi. Il t'a choisi pour vivre la Nouvelle Alliance. Et si tu n'es pas chrétien, sache que la porte n'est pas fermée. Si tu reconnais que ta vie n'est pas ce qu'elle devrait être, si tu désires que Dieu te pardonne de tout ce que tu as pu faire de mauvais, regarde à la croix où le Fils de Dieu est mort pour toi, à ta place. Saisis aujourd'hui cette occasion de te réconcilier avec Dieu, de demander pardon et de prendre un nouveau départ avec Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Je vous invite à prendre le temps nécessaire pour répondre à la parole de Dieu, à reconsidérer cette nouvelle alliance que Dieu a tant désiré et qu'il a réalisé avec son nouveau peuple, l'Église. Et regardez tous les privilèges que nous avons sous cette nouvelle alliance. Non seulement notre cœur est transformé, non seulement nous connaissons Dieu, non seulement nous sommes pardonnés. Et Dieu continue de nous garder. Que nous puissions répondre à la parole de Dieu. Quelle espérance, Seigneur, tu as laissé à ton peuple lorsque Jérémie a pu leur communiquer ces paroles. Oui, quelle espérance, parce que le peuple d'Israël, en tout cas ceux qui voulaient s'attendre à toi, ont pu continuer à espérer. Espérer qu'un jour, il y ait une nouvelle alliance. Une alliance où, dans le nouveau peuple de Dieu, tous les membres te connaissent. Et tu as réalisé cela en Jésus-Christ. Et nous sommes tellement reconnaissants de la grâce que tu nous as témoignée en nous faisant faire, en nous choisissant pour que nous puissions faire partie de ce peuple. Et si nous y sommes, c'est que tu veux vraiment que nous y soyons. Oui, quelle grâce, Seigneur, tu nous fais de vivre sous cette nouvelle alliance où nos péchés sont pardonnés. Et où à chaque fois que nous retombons et que nous revenons à toi, tu es de nouveau prêt, disposé à nous pardonner à cause de ce que Jésus a accompli pour nous. Merci, Seigneur, d'avoir prévu tout cela sans que nous-mêmes nous puissions faire la moindre chose, sans que nous puissions mériter quoi que ce soit. Mais tout n'est que grâce et nous te remercions pour cela. Et nous prions encore, Seigneur, pour que d'autres puisse répondre à ton appel, pour faire partie de ce peuple et pour vivre sous cette nouvelle alliance, une alliance qui est libératrice. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous as donné ce privilège de te connaître, d'être en relation avec toi. Et nous voulons continuer à être dans cette relation avec toi. Et comme nous l'avons chanté, oui, nous avons soif de toi. Parfois, les mots nous manquent. Parfois, peut-être, nous ne te disons pas assez souvent que nous t'aimons. Et si nous pouvons te dire tout cela, si nous pouvons t'exprimer notre amour, c'est bien parce que tu as changé notre cœur. Et pour cela aussi, nous te disons merci. Merci d'avoir agi en nous, parce que sans cela, il aurait été impossible pour nous de nous tourner vers toi. Merci d'avoir fait tout, absolument tout, pour que nous puissions être sous cette nouvelle alliance. Et tout cela, Seigneur, tu l'as accompli par l'œuvre de ton Fils Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen.